Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Éric Jonquière, je viens de Bruxelles. Je suis président de l'ABEVA, l'Association belge des victimes de l'amiante. Si le mot amiante résonne dans ma sphère familiale depuis les années 30, les événements familiaux récurrents depuis 1987 m'ont forcé à devenir intimement lié aux dégâts que provoquent les mésothéliomes. Les fins de vie, je les connais. Les problèmes de surdité des chefs de service, c'est du vécu. La problématique du choix des thérapies ou des soins palliatifs, hélas, aussi. 23 ans séparent le premier décès par mésothéliome dans ma famille. Je ne peux pas dire que les grands principes thérapeutiques que sont la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie n'aient vraiment évolué de façon significative. L'espérance de vie, une fois le diagnostic établi, n'a que très peu évolué. Des bonnes nouvelles ? Les victimes y aspirent. Tout à l'heure, mes oreilles seront attentives lors des interventions des spécialistes invités à s'exprimer. Pierre, mon père, ingénieur, décédé d'un mésothéliome en 87 à l'âge de 59 ans. Lui, tout comme son père, directeur d'une usine d'amiante-ciment, et son frère Jacques, qui sortit de la brousse africaine, l'usine Eternit Congo en 1948, vouait une grande admiration envers les propriétaires de la marque Eternit Belgique. Se sachant condamné, il ne pouvait néanmoins imaginer que les actionnaires historiques lui aient à ce point menti sur la dangerosité de l'amiante et sur le manque de précautions nécessaires à la sécurité au travail. Il mourut à la maison dans une grande détresse respiratoire, sans chimio, mais avec des soins de confort qualifiés de basiques. À l'ABEVA, il n'est porté à notre connaissance qu'aujourd'hui encore deux anciens travailleurs d'Eternit atteints d'un mésothéliome en phase finale refusent de demander l'aide du fonds amiante, l'équivalent de votre FIVA, car ils ne peuvent accepter que l'amiante puisse être la source de leur malheur. On remarque donc à quel point l'omerta exercée par cette multinationale dans la région de Capelle-aux-Bois pèse sur les victimes qui craignent de trahir leur ancien pourvoyeur de pain. Dans mon village natal, le médecin de famille était lui aussi le médecin de l'entreprise. Acquis à la cause des industriels, vantant les bienfaits de l'amiante, il ne proposa que des antibiotiques à mon père afin d'enrayer sa toux persistante. Inquiet, ne recevant pas les réponses adéquates, mes parents s'en allèrent en ville où son cancer fut finalement diagnostiqué. Françoise, mère au foyer, ayant le bonheur d'élever ses 5 garçons dans la verte campagne non loin du complexe industriel d'amiante-ciment. Elle n'a jamais travaillé à l'usine et pourtant on lui a diagnostiqué un méso en 99. Si pour Pierre, les risques avaient été dénoncés par certains journalistes en Belgique dès les années 70, comment se faisait-il qu'elle puisse être à ce point contaminée? Les scénarios sont connus, ce qui l'a rendue hors d'elle, c'est d'apprendre que ses 5 garçons étaient eux aussi contaminés à forte dose. Parallèlement à son combat, elle choisit le non-acharnement thérapeutique sur sa personne devenue frêle. Je veux des soins palliatifs de premier choix afin de garder ma tête au clair pour dénoncer les agissements de ces industriels criminels et préparer mes 5 jeunes petits-enfants à notre future séparation. Bien que malade, elle demandait à être reçue par la haute direction de la multinationale qui lui proposa une indemnisation de 42 000 euros, contre son silence et en contrepartie de l'abandon de toute poursuite judiciaire. Face à ses bourreaux, elle refusa de se faire ainsi bâillonner et fonda l'ABEVA. Ayant préservé sa liberté de parole et d'action, elle initia le premier procès de l'amiante en Belgique. Oui, nous l'avons gagné en 2012. Mais Eternit a décidé de faire appel. À ce jour, nous ne connaissons pas encore la date de reprise des procès. La fratrie était à peine remise du deuil lorsque la toux persistante remarquée chez mon frère Pierre-Paul fut diagnostiquée elle aussi en méso. Ne s'imaginant pas survivre avec un seul poumon, craignant les scalpels, il choisit l'immunothérapie pour tenter de vaincre son cancer. Nous étions en 2002. Cette technique utilise des protéines produites par les cellules du système immunitaire, en particulier les immunoglobulines, pour stimuler les défenses. L'hôpital parisien retenu s'était spécialisé dans ce genre de traitement proposé aux marins ayant été atteints par l'amiante dans les submersibles. Hélas, lui qui à un moment reprit espoir, du poids et des couleurs, reçut les résultats des tests comme un coup de guillotine. Son pari avait échoué. Et même l'idée de l'ablation du poumon malade était devenue impossible, tellement cette tumeur s'était développée. Jusqu'au bout, il s'accrocha à la vie, mais se mura dans des silences de plus en plus révélateurs des pensées morbides. Père de 3 enfants, il mourut en 2003 à l'âge de 43 ans. Lors des funérailles, j'entendis quelqu'un dire « Je serai le suivant ». 3 ans plus tard, l'auteur de ce propos nous annonça qu'effectivement, la pieuvre avait entamé son œuvre destructrice. Stéphane, le 4e frère dans la fratrie, allait devoir lui aussi affronter l'idée de sa fin de vie. Proche des milieux médicaux et des médecines douces, il choisit la chirurgie, non sans d'abord préparer le terrain avec de la kiné et de l'homéopathie. Son épouse et lui forcèrent les équipes médicales à se parler, à traiter le malade dans sa globalité, en le gardant au centre de l'équation. Il mourut 19 mois après la découverte de son méso, mais il avait réussi à ce que les éminents chefs de service se parlent et échangent, à ce que le malade soit entendu et écouté. Grâce à son entêtement, les médecines parallèles avaient fait leur entrée dans cet hôpital. Un vocabulaire accessible avait remplacé le charabia médical. L'estrade sur laquelle certains médecins prennent trop souvent de la hauteur avait disparu. Qui sera le prochain? Peut-on accepter que les dividendes de quelques-uns pèsent plus lourd que plusieurs milliers et de centaines de milliers de personnes? Après avoir succombé aux propos des professionnels de la désinformation, peut-on accepter que l'État reste à ce point passif et aphasique? Quel avenir pour nos enfants si toutes les leçons de cette immense catastrophe sanitaire ne sont pas tirées? Mes observations m'ont conduit à conclure que dans le domaine de la recherche médicale, la lutte contre les mésothéliomes ne constitue pas une priorité pour les grands laboratoires à travers le monde. Les 110 000 travailleurs morts de l'amiante, auxquels il faut ajouter un nombre incalculable de victimes environnementales, ne constituent sans doute pas un terreau assez lucratif pour que les firmes pharmaceutiques y mettent le paquet. Heureusement, des exceptions existent. En Belgique, dans nos interpellations auprès des députés, nous demandons la création de centres d'excellence. Bien sûr, rassembler les compétences, mais aussi faire en sorte que les victimes et leurs proches puissent lutter collectivement contre l'inéluctable. Unis, on est plus fort pour affronter la détresse, autant humaine que respiratoire. Le deuil, et après, le dur réamorçage de la vie. Si dans la plupart des services d'oncologie, l'état d'esprit doit être à l'optimisme quant à une possible rémission, voire guérison, pour les cancers de l'amiante, le pronostic est hélas beaucoup plus sombre. Les victimes et leurs familles souvent le savent. Il faut donc que les équipes médicales en tiennent compte dans la manière avec laquelle le patient et ses proches sont donc pris en charge. Dois-je préciser que toutes ces souffrances et cette ignoble saga de l'amiante trouve l'origine dans le mensonge des industriels et une forme de faillite de l'État face à un puissant lobby. Instruit par la terrible expérience des 4 fins de vie, d'être cher, président d'une association qui martèle que l'épique des morts est encore à venir, nous avons établi des cartes de victimes ayant vécu proche des usines Eternite. Ému par les résultats assez effrayants et le retentissement médiatique qui s'ensuivit, les démographes ont proposé de faire tourner leurs ordinateurs suivant des formules mathématiques bien établies et non contestables. Il en résulte que chez Eternite, les travailleurs morts de l'amiante ont perdu en moyenne 21 années de vie. Nous espérons que ces démographes auront prochainement accès aux chiffres du Registre national contre le cancer afin d'établir des données similaires pour l'ensemble des victimes de l'amiante. Pour tous ces toits bâtis, combien de mois détruits? C'est dans ce travail d'écriture que j'ai pu me reconstruire et permettre à l'indignation de cette mère courage de trouver écho. Avec détermination, peser des mots forts pour mieux dénoncer les coupables et éveiller conscience. Oser émettre des recettes de survie et réconforter mes enfants, passablement inquiets que je puisse moi aussi venir un jour noircir les statistiques. Le nombre de fibres d'amiante présentes dans mes poumons me contraignent aussi à l'apprentissage de la danse sous une épée de Damoclès. C'est un travail fastidieux et fragile. Bien que meurtrie, notre famille n'est pas en recherche de vengeance. Elle finirait par nous ronger et nous perdre. Je vous rassure, je suis profondément optimiste et gourmand de la vie. Alors, messieurs les chercheurs, les médecins, les victimes espèrent des progrès et méritent que vos efforts aboutissent vite. Merci de m'avoir invité. Merci de votre bienveillante attention.